RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage vous invite aujourd'hui à la découverte de l'équipe de France féminine de football. Dans un an et demi, la France accueillera la Coupe du Monde féminine 2019, point d'orgue d'un très long parcours pour les Bleus depuis la naissance officielle de cette équipe de France au féminin en 1971. Après avoir été la première femme à entraîner un club professionnel masculin, Corinne Diacre est à leur tête avec un objectif rêvé, remporter enfin un titre comme les garçons en 1984. Ce soir, les Bleus sont en Allemagne pour y disputer leur cinquième match amical depuis l'arrivée de Corinne Diacre à leur tête. Un vrai test face à des Allemandes deux fois championnes du monde et championnes olympiques en titre. Objectif Coupe du Monde pour l'équipe de France féminine de football. Grand reportage signé Eric Chauvin.
Impossible de s'y tromper, nous sommes bien dans un stade de football et comme le speaker l'a annoncé, l'équipe de France est victorieuse. Mais non, vous n'êtes pas au stade de France et non, ce ne sont pas les joueurs de Didier Deschamps qui viennent de l'emporter face au Ghana. Les 17 000 spectateurs qui garnissent les tribunes du stade Auguste Delaune de Reims, presque plein pour l'occasion, viennent d'assister à la victoire de l'équipe de France féminine de football entraînée par Corinne Diacre. Et 1, et 2, et 8-0, score final de cette large victoire des Bleus sur les Ghanéennes. Le quatrième succès consécutif des Bleus ES en 4 matchs depuis la sortie de l'été. Chili 1-0 et Espagne 3-1 fin septembre. Angleterre 1-0 et donc Ghana 8-0 fin octobre. Organisatrice de la Coupe du Monde féminine 2019, la première sur le sol hexagonal, la France entame donc de la meilleure des manières sa préparation à l'événement. Elle qui n'a que des matchs amicaux à disputer pour se préparer d'ici le coup d'envoi de l'événement le 7 juin 2019. Et pourtant, le 30 juillet dernier, les joueuses de l'équipe de France quittaient tristement l'Euro féminin aux Pays-Bas en quart de finale, alors qu'elles faisaient partie des favorites pour le sacre. Mais après un premier tour laborieux, une seule victoire, 1-0 face à l'Islande, et deux matchs nuls, un partout contre l'Autriche et la Suisse, les joueuses entraînées alors par Olivier Échouafny s'inclinaient 1-0 face à l'Angleterre et voyaient leur rêve d'un premier grand titre s'envoler. Pour la première fois, les Bleus essuyaient même des critiques. Un phénomène nouveau pour une équipe qui avait surtout suscité de la curiosité, voire une certaine affection matinée d'un soupçon de condescendance par le passé. Peut-être enfin, finalement, une forme de reconnaissance, la milieu de terrain Camille Abili.
Oui, bien sûr, ça montre qu'on nous prend au sérieux. C'est vrai qu'auparavant, c'était plus la découverte dans les autres compétitions où on se disait, ah, l'équipe, déjà, pour beaucoup, découvrait le football féminin, découvrait un jeu plutôt attractif. Et maintenant, ben, on attendait un titre et le fait qu'on a eu un jeu nettement moins attractif, on n'a pas eu de résultat, donc forcément, il y a eu pas mal de critiques. Maintenant, l'équipe de France s'est renouvelée et j'espère qu'elle fera une belle Coupe du Monde 2019.
Ça a pesé sur vos décisions d'arrêter votre carrière internationale?
Non, j'aurais aimé terminer par une finale ou au moins une demi-finale. Maintenant, c'est comme ça, mais j'y pensais déjà quand même pas mal avant.
Le 17 octobre dernier, Camille Abili n'est pas à Clairefontaine où les Bleus sont rassemblés avant d'affronter l'Angleterre et le Ghana. Elle l'avait décidé avant, mais c'est bien sur cet Euro 2017 décevant que sa carrière internationale s'est arrêtée sans le moindre titre après 16 ans et 183 sélections en bleu. À 32 ans, elle possède l'un des plus beaux, sinon le plus beau palmarès du foot féminin français. 4 Ligues des Champions et 10 titres de championne de France avec l'Olympique Lyonnais, plus 2 avec Montpellier et un titre de championne des États-Unis avec le FC Gold Pride. Mais elle est repartie bredouille d'une équipe de France qui n'a toujours rien gagné depuis sa naissance en 1971, son premier Euro en 97 et son premier mondial en 2003. La plus belle aventure des Bleus à ce jour reste la Coupe du Monde 2011 en Allemagne. Elle s'est arrêtée en demi-finale face aux Américaines. Un coup d'arrêt suivi de quelques autres, mais pourtant C'est sans doute là, chez les Allemandes, qu'est née l'idée d'une Coupe du Monde en France. Noël Le Graët vient d'être élu à la présidence de la Fédération française. Il est dans les tribunes avec sa vice-présidente Brigitte Henriques, ancienne footballeuse elle-même, trois fois championne de France avec Juvisy et porteuse du maillot bleu entre 1988 et 97. C'est elle qui est en charge aujourd'hui du développement du foot féminin à la 3F. Elle n'a pas oublié.
On a juste d'être élu. Bon, en plus, cette Coupe du Monde-là, avec Bruno Bini, elle était fantastique. Avec cette équipe-là, voilà, on arrive en demi-finale. C'était juste extraordinaire. J'ai vécu ces moments avec lui. Les stades étaient remplis, une ambiance de dingue. Une équipe merveilleuse, voilà, des joueuses hyper performantes, toute équipe confondue d'ailleurs. Et je pense que Noël, voilà, moi j'en rêvais depuis toujours, mais je pense que notre président Le Graët s'est dit que ça serait vraiment bien qu'il puisse y avoir ça dans notre pays. Quoi. C'était les premiers moments qu'on partageait ensemble devant du football féminin. Ça a été extraordinaire, je m'en rappellerai toute ma vie, parce que pour moi, on était au paradis du football féminin sur cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que quand on se qualifie pour les demi-finales, je le regarde et je comprends très vite dans son regard que c'est magnifique et qu'il a envie qu'il y ait ça chez nous.
L'envie est là, reste à la concrétiser. Brigitte Henriques se met au travail au sein de la fédération. Et du travail, il y en a, mais pas de quoi faire peur à celle qui n'a pas oublié que...
Quand j'avais 5 ans, on me disait qu'on ne prenait pas les filles parce que ça ne se faisait pas.
Nous étions alors en 1976, il y a 40 ans, et ce sont les Verts de Saint-Etienne qui faisaient rêver les Français. Pas son équipe de France masculine et encore moins son équipe féminine qui, elle aussi, avait 5 ans.
Nous, on fait partie des générations qui avons joué dans l'anonymat, c'est-à-dire qu'en en fait, voilà, on s'entraînait à 3-4 fois par semaine dans notre club. On jouait devant 2000-2500 personnes quand c'était vraiment important. Et je dis souvent pour rigoler que c'est souvent nos familles et nos amis qui étaient présents dans les stades. Mais à la fois, c'était quelque chose de passionnant. Qu'est-ce qui a changé? Tout simplement qu'à partir de 98, avec Marie-Lou Duringer qui était à l'époque au Conseil fédéral et avec Elisabeth Loisel et Aimé Jacquet, le Pôle France a été créé. Et ça, c'était le début de la belle histoire, voilà, des progrès que l'équipe de France a pu faire, puisque forcément, quand on s'entraîne 5 fois par semaine dans des conditions exceptionnelles, forcément, vous progressez. Et puis, les choses se sont enclenchées. Il y a eu un gros travail de fait aussi par notre fédération sous l'impulsion de Noël Le Graët. On s'est occupé de la base, vraiment, pour augmenter le nombre de joueuses. Donc, on est passé de 50 à 120 000. Forcément, si vous avez plus de jeunes joueuses, vous avez plus de talent. La prochaine étape, c'est de créer des équipes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueuses, mais elles sont éparpillées. Donc, c'est de créer des équipes pour que...
Ça manque de clubs, en fait, un peu en France.
Alors, en fait, ça manque pas de clubs, ça manque d'équipes. Aujourd'hui, vous avez un club sur deux, vous avez quand même 8000 clubs qui accueillent des jeunes filles, par contre vous n'avez que 6000 équipes et c'est pas suffisant. Ça permet pas à des jeunes filles sur toutes les catégories d'âge de jouer tous les week-ends par exemple. Donc aujourd'hui la prochaine étape c'est celle-là et c'est vrai que malgré tout on a franchi des pas de géant. Voilà, le travail paie.
Le Pôle France à Clairefontaine en 98, où les femmes sont là d'entrée de jeu, mais ne dorment pas encore au château réservé aux garçons. Les demi-finales de la Coupe du Monde 2011 en Allemagne, qui permettent aux Français de découvrir qu'ils ont une équipe féminine. Et dans le même temps, le président de l'Olympique Lyonnais qui mise sur les filles, après les garçons avec lesquels il a remporté 7 titres de champion de France de 2002 à 2008. Jean-Michel Aulas en décroche 11 avec les féminines de l'OL de 2008 à 2017. Il fait même mieux avec elles, remportant 4 Ligues des champion entre 2011 et 2017 quand il avait dû se contenter d'une demi-finale avec les hommes en 2010. L'étape suivante, c'est l'obtention de la Coupe du Monde 2019, le 19 mars 2015, après la Chine qui a ouvert le bal en 91, suivi par la Suède, les États-Unis, l'Allemagne et le Canada, la France accueillera la 8e Coupe du Monde féminine dans un an et demi. Retour à Clairefontaine, le 17 octobre dernier, il y a des rires et 23 joueuses à l'entraînement, sans Camille Abili, on l'a dit, elle qui faisait ses premiers pas en bleu 16 ans plus tôt, en 2001. À 5 minutes de la fin d'un match amical face aux Pays-Bas, Elisabeth Loisel, première femme à la tête de cette équipe de France, décidait de la lancer aux côtés de celle qui est toujours la meilleure buteuse des tricolores avec 81 buts, Marinette Pichon, et de la capitaine d'alors, Corinne Diacre.
Ouais, c'est même pas ça, c'est...
Corinne Diacre, Coco, pour les amis, c'est elle qu'on entend donner de la voix auprès des Bleus. La capitaine est devenue...
Je dis sélectionneur.
C'est bien, ça me va bien.
Que ce soit au masculin ou au féminin.
Il est au féminin, vous rajoutez un E.
Je rajoute un E, voilà, comme ça c'est clair.
C'est parfait.
C'est parfait.
Message reçu avant la conférence de presse de Corinne Diacre à Clairefontaine. Elle est en place, micro RFI en main.
J'ai toujours rêvé d'être une chanteuse.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est fait. C'est bon.
Manque plus que la boule à facettes. Okay. N'allez pas être déçue, là, une chanson. Allez, la première est toujours la plus dure, on y va ?
En quelques secondes, la sélectionneure des Bleus a démontré qu'elle a le sens de l'humour, certes, mais qu'elle sait aussi ce qu'elle veut. On comprend très vite que si elle est à ce poste, cela ne doit rien au hasard. Joueuse et capitaine de l'équipe de France de 1993 à 2005, avant d'être l'adjointe de Bruno Bini, le sélectionneur, de 2007 à 2013, elle aurait sans doute pu succéder à Bini. Mais finalement, son brevet professionnel de football tout juste en poche, elles ne sont que trois femmes à en être titulaires en France aujourd'hui. C'est à Clermont Foot qu'elle atterrit fin juin 2014.
Rien ne se fait au hasard. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais souhaité le poste, sans m'en être exprimée très clairement d'ailleurs. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je n'ai pas eu le poste au moment où je le souhaitais. Maintenant, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus armée qu'hier. Et c'est vrai que cette expérience à Clermont de 3 années pleines m'ont fait beaucoup de bien. M'ont tout simplement fait gagner en expérience dans beaucoup de domaines. J'espère apporter cette expérience-là, en plus de mon expérience de joueuse, en plus de mon expérience d'entraîneur adjoint, au service de l'équipe de France aujourd'hui.
Car c'est une expérience unique que Corinne Diacre a vécue à la tête de Clermont Foot. Elle est tout simplement devenue la première femme à entraîner un club professionnel masculin, en Ligue 2, certes, et avec l'un des plus petits budgets qui plus est, mais le pari tenté par Claude Michy, le président du club Auvergnat, a été transformé avec succès. Clermont Foot flirtant avec la montée en Ligue 1 avant de terminer 7e lors de la saison 2015-2016. Corinne Diacre a même été désignée meilleur entraîneur de Ligue 2 par ses pairs en 2015. Ce n'était pourtant pas gagné à son arrivée en Auvergne, malgré la confiance de Claude Michy.
C'était une femme qui arrivait pour diriger des hommes avec toutes les questions qui allaient avec, qui étaient toujours les mêmes. Quand est-ce qu'elle rentre dans le vestiaire? Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce que ceci, cela? Puis elle arrivait dans le monde professionnel, donc il fallait lui laisser le temps aussi d'apprivoiser les choses. Mais je trouve qu'elle a apporté beaucoup au club dans la rigueur, dans la recherche de l'excellence, qui n'est pas toujours facile, pour demander à chacun d'être plus performant, avec une autorité naturelle. Alors c'est évident que la vie d'un groupe de joueurs, un staff et autres, ça peut être un long fleuve tranquille tout le temps, mais ça s'est quand même très très bien passé, et je pense que ça va lui servir pour l'équipe de France féminine aussi.
Et pour vous, c'est la bonne personne au bon poste aujourd'hui ?
Je pense qu'elle a toutes les qualités. Après, le poste de sélectionneur, c'est rien à voir avec un poste d'entraîneur au quotidien. Elle a un peu de temps pour construire le groupe dont elle a besoin pour réussir, mais elle a toutes les qualités. C'est qu'une étape dans sa carrière.
Clermont, vous voulez dire ?
Non, le poste de sélectionneur est une étape dans sa carrière. Elle ira beaucoup plus haut.
Prendre un club professionnel en première division un jour, par exemple ?
Oui, ou même dans un club étranger de haut niveau. Elle est taillée pour ça.
Corinne Diacre, taille patron pour Claude Michy, qu'il a choisi pour entraîner Clermont, comme Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, qu'il l'a choisi pour prendre la tête des Bleus cet été. Un choix qu'il nous a expliqué à Lyon, la ville qui accueillera les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde 2019.
Bah déjà, je souhaitais l'année dernière, il n'a pas pu se libérer. Bon, cette année, on a recommencé, Corinne était vraiment, avait envie de venir. Donc on a réussi à convaincre Claude Michy. Je pense que c'est le poste idéal, elle a réussi un peu partout. D'abord 120 sélections, entraîner Soyot, entraîner Clermont, garçon avec succès. Et puis je voulais un petit peu de sang neuf. Parce que depuis 2 ans, on joue bien, mais on ne progresse pas forcément. Donc je lui ai demandé la première année de faire plein d'essais, puis la deuxième année d'avoir une équipe compétitive pour bien préparer cette Coupe du Monde. Et je pense que Corinne, elle défend ses idées. Lorsqu'elle a pris une décision, elle est vraiment très, très difficile à modifier. Elle a un caractère bien trempé. Forte personnalité, donc moi j'apprécie énormément.
Qu'est-ce qu'elle vous a demandé là quand elle est arrivée ? Est-ce qu'elle a eu des exigences ?
Oh non, très franchement, elle était tellement contente de venir. C'est le staff un petit peu. Elle a voulu changer de staff, mais c'était aussi mon avis. Non, non, ça s'est passé très rapidement. En une journée, je crois qu'on avait tout réglé.
Vous avez le sentiment qu'avec elle, elle va professionnaliser ou l'approche aussi, le travail de l'équipe de France féminine ?
Elle a l'habitude en tout cas déjà du foot féminin, de par son expérience. Et ce qu'elle a fait à Clermont est quand même... pour moi, exceptionnel. C'est la seule. En Europe, peut-être dans le monde, qu'entraîner un club professionnel de deuxième division. Je ne vois pas d'autres pays qui ont mis à la tête de leur équipe une femme. Donc elle a l'expérience, la personnalité, elle a l'œil. Il y a des jeunes joueuses qui peuvent progresser. Donc, je pense qu'elle a tous les atouts pour faire progresser l'équipe de France.
Je l'ai pas eu. Non, mais je l'ai passé.
L'équipe de France, retrouvons-la à Clairefontaine pendant la semaine où Corinne Diacre a ses joueuses à disposition pour préparer les matchs internationaux des Bleus. Avec des choix forts d'entrée de jeu, certaines anciennes n'ont pas été rappelées après l'Euro, à l'instar de Gaëtan Tinet. Le capitana a été retiré à Wendy Renard et confié à Amandine Henry, toute fraîche championne des États-Unis avec Portland. Et coup de jeune hein, sur les Bleus qui arrivent en force aux côtés des anciennes.
Oui, il y a un peu tout. Je pense qu'il fallait... effectivement redonner un souffle nouveau, permettre à d'autres joueuses de pouvoir s'exprimer en équipe de France. Il faut malgré tout continuer à s'appuyer sur des anciennes. L'équipe de France n'a pas de titre, mais malgré tout, il y a cette expérience. On a plusieurs joueuses qui ont plus de 100 sélections, donc ça doit nous servir. Notamment encadrer ces jeunes-là, et ces jeunes qui sont là aujourd'hui doivent nous apporter leur fraîcheur, leur insouciance un petit peu dans le jeu, et puis nous emmener. Mais voilà, avoir vraiment un amalgame entre les anciennes et les jeunes.
Parmi elles, symbole de ce coup de jeune, Awa Sissoko et Oulemata Sarr, 20 et 22 ans. Elles sont toutes les deux nées en France, mais les parents d'Awa viennent du Mali et Sedoulaye du Sénégal et de Mauritanie. La première joue en défense centrale à l'Olympique de Marseille. La seconde est attaquante à Lille, mais toutes deux se sont connues il y a 4 ans au Paris Saint-Germain, qu'elles ont choisi de quitter à l'intersaison. Toutes deux font chambre commune à Clairefontaine, et si Oulaye est un peu réservée, Awa est là pour ambiancer. Le 18 septembre dernier, la France battait l'Espagne 3-1 à Calais. Double première pour les filles, première titularisation et premier but en bleu d'Oulaymata Sarr après des débuts face au Chili. Et la toute première cape pour Awa Sissoko que Corinne Diacre a fait entrer en jeu à 5 minutes de la fin. Les copines vous racontent la suite et c'est Awa qui commence.
J'étais choquée un peu. Alors j'étais sur le banc, déjà je ne m'attendais pas à rentrer parce que c'était quand même l'Espagne, c'est une grosse nation. Et donc quand elle m'envoie à l'échauffement, déjà j'étais un peu choquée et tout, genre mais je pensais que même c'était une blague. Du coup je vais m'échauffer et quand je rentre, moi je suis sur le terrain et je regarde partout et j'entends les supporters et tout. Enfin, je suis putain, je suis en équipe de France. Ah, je me suis dit là comme ça, c'était ouais. Et j'étais comme une ouf.
C'était un aboutissement ou en tout cas le début de quelque chose dont vous aviez rêvé?
Ouais, c'était le début. Après, dans ma tête, je me suis dit, c'était déjà bien d'avoir fait la première, maintenant il faut essayer d'y rester. T'es trop content quand tu fais la première, mais si ça s'arrête tout de suite après, t'étais quand même déçu. Genre.
On va y revenir, puisque vous avez été rappelées toutes les deux pour la deuxième convocation du groupe France, pour les deux matchs à venir. Oulaye, ça change quoi d'avoir été titulaire pour la deuxième rencontre? C'est une preuve de confiance aussi de la part de Corinne Diacre?
Oui, c'est sûr, c'est une preuve de confiance et fallait que je fasse un bon match pour lui prouver qu'elle a eu raison de me mettre titulaire.
Bon, il y a eu un but, entre autres. C'est pas mal, non? Les sensations à ce moment-là, j'imagine, c'est énorme, non?
Oui, c'est énorme. Surtout que 2 minutes avant, j'avais des crampes. Je pensais que j'allais sortir. J'avais eu des crampes. Je devais sortir sur le corner, juste avant le corner. Et finalement, je suis restée et j'ai vu le ballon arriver. Grid allait prendre le ballon devant moi. Je lui ai crié « laisse ». Elle m'a laissé et j'ai mis la tête.
Même quand elle marque, nous, que sur le banc, on était comme des ouf. C'est comme si c'était nous, tout en avait marqué.
J'étais super contente et je voulais aller voir Awa qui était sur le banc, mais elle était partie à l'échauffement, du coup, je savais pas où elle était.
Je pense que pour elle aussi, c'était peut-être improbable que je m'échauffe à ce moment-là. Mais...
Ouais, vous êtes rentrée après son but, en fait.
Juste après.
Pendant que j'allais pour m'échauffer, pendant que j'allais, et je vois qu'elle marque, c'est là. Oulay.
Et moi, je la cherchais, mais j'arrivais pas à la voir. J'allais vers le banc, mais.
Au final, elle était vers le banc, donc à la fin du match, je l'ai insultée. Et on était censé faire la célébration ensemble, mais bon, voilà.
Vos ambitions avec cette équipe de France, c'est de vous imposer de jouer la Coupe du Monde. Ça vous fait rêver, cette Coupe du Monde en France, dans 2 ans?
Carrément. Franchement, on peut pas mentir. Hein. Franchement, oui.
C'est sûr, en plus c'est en France, donc tout le monde, je pense, rêverait de jouer la Coupe du Monde en France. Après, je pense à un objectif pour toutes les deux, mais on sait qu'il y a encore du travail à faire et il faut déjà faire le travail en club, continuer à jouer et faire des bons matchs. Et après, petit à petit, on verra, mais bien sûr que c'est un rêve et que c'est un objectif.
La Coupe du Monde en France, c'est l'objectif de ces jeunes pour lesquels le football est tout aujourd'hui. Même si le championnat français n'est pas encore professionnel, ces joueuses en vivent. Le salaire moyen des mieux lotis à Lyon, au PSG, à Montpellier tourne autour des 4000 euros mensuels, 1500 à 3000 pour les autres. Elles peuvent se consacrer totalement au foot sans oublier de penser à leur reconversion. La Fédération française, elle, a un double objectif. Le premier, bénéficier de l'effet Coupe du Monde pour atteindre les 200 000 licenciés en 2020. Très loin, hein, des 2 millions de garçons, mais le double d'il y a à peine 10 ans. Le second l'a gagné, bien sûr, pour qu'enfin les filles ouvrent leur compteur, comme la bande à Platini l'a fait pour les hommes en remportant son euro en 1984. Et cet objectif est partagé par toutes celles qui ont joué en bleu depuis la naissance officielle de l'équipe de France féminine en 1971. Et leur meilleur porte-parole, tiens, c'est celle qui a été nommée pour aller le chercher, ce titre, Corinne Diacre, bien sûr.
Aujourd'hui, ce titre-là manque à la Fédération française de football. Donc s'il manque à la Fédération française de football, il manque aux joueuses. C'est indéniable. Aujourd'hui, il nous manque ça. Et tant qu'on n'a pas ça, bah, il faut avoir l'objectif d'aller les chercher.
Et pourquoi pas, en succédant aux Américaines, championnes du monde en titre, cela se passerait à Lyon, sous les yeux de Camilla Billy, le 7 juillet 2019, au terme d'une finale qui nous rappellerait celle de la Coupe du Monde 98.
Et 1, 2, 3, 0.
Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Objectif Coupe du Monde pour l'équipe de France féminine de football, un grand reportage d'Éric Chorin, réalisation Pierre Chaffangeon.